Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Je vous parle de Charlemagne, un petit retour. Donc Charlemagne s'est approprié le royaume de son frère. Vous vous souvenez que Carloman est mort subitement et Charlemagne a dit « Allez, à moi le royaume ». Donc la femme de Carloman s'est enfuie en Italie, recueillie par le roi des Lombards avec ses deux enfants. Il règne aussi donc sur la Lombardie. Il vient d'échouer dans sa lutte contre les Arabes d'Espagne. Son arrière-garde a été complètement anéanti par les Basques. Je dis bien par les Basques, ce n'était pas du tout les Arabes. Il doit faire face maintenant à des ennuis. Alors ces ennuis viennent d'où ? Eh bien, ils viennent d'Italie et de Saxe. En 780, alors on commence par l'Italie. En 780, il décide de passer les Alpes et d'aller jusqu'à Rome. Et il part en famille. Ah oui, il aimait beaucoup ça. Il aimait bien être entouré de tous ses enfants, de sa femme. Voilà. Il est reçu par le pape, qui s'appelle à l'époque Adrien, avec les honneurs. Et le jour de Pâques, le 15 avril 781, le souverain pontife baptise le fils de Charlemagne, Carloman, et lui donne donc l'onction royale et lui met la couronne sur la tête. Désormais, il gouvernera l'Italie. Mais comme il n'a que 4 ans, le Carloman en question, eh bien le roi laisse auprès de lui son cousin, le conseiller Adalard. Il pense que son fils, élevé en Italie, finalement fera un bon roi italien. En fait, qui gouverne ? Je pense que vous l'avez deviné, c'est Charlemagne. Parce que quand il n'est pas en Italie, il envoie des instructions aux fonctionnaires chargés d'administrer la péninsule. Les actes italiens, d'ailleurs, portent les noms de Charlemagne et de Pépin. Ce dernier adresse à son père des rapports détaillés, si bien que l'ordre règne en Italie. Et quand on parle de l'Italie, il faut enlever quand même toute l'Italie méridionale. Hein, parce que là, il y a un grand-duché qui est absolument homogène, qu'on appelle le duché de Bénévent. Il est gouverné par le duc Arichis, un excellent gouverneur, très respecté de tout le monde. Alors, Charlemagne, bien sûr, lorgne de ce côté-là. Mais les Bénéventins considèrent leur terre comme le dernier refuge de la liberté lombarde et n'ont aucune envie de se laisser absorber par Charlemagne. Donc, ça serait bien s'il se trouvait un allié. Eh bien, les Bénéventins le trouvent. Ils le trouvent chez les Byzantins. Constantinople continue de penser qu'elle est, de droit, successeur des Césars, donc que l'Italie, finalement, est à elle, et que Charlemagne est un intrus. Alors, malheureusement pour les Bénéventins, il y a une révolution du palais qui se passe à Constantinople. L'empereur Léon IV meurt et il laisse un fils en bas âge, qui s'appelle Constantin, trop jeune pour régner, c'est donc sa mère qui devient régente, c'est l'impératrice Irène. Bon, les choses s'arrangent. Elle envoie une flotte avec des troupes pour grossir l'armée de Sicile. La guerre s'engage en novembre 788. Les Byzantins sont vaincus par l'armée de Charlemagne. Ce sera presque toujours comme ça. Eh bien, il a atteint son objectif, l'ancien royaume lombard, plus les duchés de Spolète et de Frioul, l'Istrie avec ses 172 villes, ses châteaux, tout ça c'est à lui. Donc Charlemagne, tout en réglant ses affaires en Italie, garde bien sûr un œil sur la Saxe. Et au printemps 779, il se rend à Compiègne, puis à Verzenay près de Reims, il passe le Rhin, il entre en Westphalie. Alors il y a des habitants quand même qui veulent bien résister. Ben oui, mais c'est complètement raté. Charlemagne, une fois encore. Alors, à l'époque, c'était pas des guerres comme maintenant, j'allais dire, ou comme plus tard au XVIIIe siècle. Charlemagne, il tue, il brûle et il ravage. À chaque fois qu'il sera dans un territoire, c'est comme ça que ça se passera. Hein. Puis, il passe l'hiver à Worms. En 780, il se remet en marche avec une armée puissante pour attaquer les Saxons. C'est une réussite encore, et beaucoup d'entre eux se convertissent. C'est ça qu'il exigeait à chaque fois, Charlemagne. Il fallait que les gens se convertissent au christianisme. Il était persuadé qu'il représentait Dieu sur terre, mais enfin, c'est pas loin. Donc, il envoie, alors du coup, comme ils se convertissent, il envoie en Saxe beaucoup de prêtres, il fait bâtir des églises, Et voilà que reparaît quelqu'un dont je vous ai parlé la semaine dernière, Wittekin, celui qui avait soulevé la Saxe. Il s'était sauvé au Danemark, il revient et il excite secrètement les Saxons et il fomente une insurrection. Alors Charlemagne n'est pas là à ce moment-là. Il y a une toute petite armée franque qui est restée sur place. Ah, pour une fois, l'armée franque est complètement décimée. Alors, Charlemagne comprend que s'il ne se venge pas, ça n'est fait de son prestige et peut-être même de sa conquête. Hein. Que fait-il? Eh bien, il réunit une armée. Il arrive au confluent de la Vézère et de l'Aller. Là, celui qui avait fomenté Wittekin se sauve au Danemark. 4500 Saxons sont décapités. Mais oui, ce sont les usages de l'époque, je veux dire, il n'est pas au-dessus de ça, hein. Il agit comme ça. Charlemagne, à chaque fois, demande au vaincu de lui jurer fidélité et il exige une conversion au christianisme. Alors, c'est pas tellement pour accroître, enfin, c'est pas seulement, j'allais dire, pour accroître le royaume de Dieu, mais c'est pour donner à ce serment un caractère inviolable et sacré. Si bien que si les Saxons mentent à cette foi jurée, pour eux, pour Charlemagne, ils mentent au Christ, donc ils seront punis. Charlemagne fait paraître alors un capitulaire. Je vous rappelle que ça veut dire capitulaire, ça veut dire divisé en petits chapitres. Hein, une loi qui est divisée en petits chapitres. Tout complot formé contre lui et les chrétiens est passible de la peine de mort. Il fixe même dans son capitulaire une liste de tous les crimes et délits que les Saxons pourraient commettre contre le christianisme, et pour chacun d'eux, il fixe la punition. Alors malgré ces menaces, les Saxons ne sont pas encore prêts, et eux, à obéir. L'agitation recommence. Charlemagne en a partout la tête. Alors, il va se consacrer pendant 3 ans à la guerre uniquement contre la Saxe, de 783 à 786. Et on peut dire que c'est une véritable œuvre de dévastation. La domination franque est assise. J'ajoute pour l'instant. Fin de l'été 793, la rébellion renaît. Les analystes en donnent plusieurs causes. D'abord, la religion des Saxons est très ancienne et très aimée. Les hommes chargés d'enseigner le christianisme n'ont pas les qualités nécessaires. Les prédicateurs mettent beaucoup d'âpreté à percevoir les impôts. Si bien que les Saxons, on peut dire qu'ils haïssent cette religion qui leur est imposée. Donc en 793, les Saxons abandonnent le christianisme. Bien évidemment, ils cherchent des alliés et ils les trouvent chez des peuples, les Frisons, les Avars, les Slaves, qui dévastent et incendient les églises, qui s'emparent des prêtres et les tuent. Charlemagne n'est pas content du tout, il se met en route. De 794 à 799, il est furieux, il ravage le pays, il se fait remettre un nombre d'otages absolument incroyable, et tout ça, ça se termine par la victoire définitive des Francs. La Saxe est ajoutée à l'État franc. Nous allons faire une première pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Charlemagne qui a vraiment des problèmes avec les Saxons, mais les problèmes sont finis parce qu'il les a mis complètement à plat. La Saxe fait partie maintenant de l'État franc. Un petit mot, je vous rappelle l'État franc. Ça comprend tout ce qui concerne la France, sauf l'Aquitaine pour l'instant. Elle va revenir. Le nord jusqu'en Belgique et en Hollande. Tout l'est au-delà du Rhin. Toute l'Italie. Donc ça fait quand même beaucoup, hein. Oui, mais il n'y a pas la Bretagne occidentale. Je dis tout de suite, hop, dans l'escarcelle. Ça fait pas un pli. La Bretagne occidentale est rattachée aussi au royaume franc. Alors reste le problème des Arabes au bord des Pyrénées. Ils se résident alors à constituer avec l'Aquitaine un grand État chargé spécialement de la surveillance des Arabes d'Espagne. Et pour se concilier les Aquitains, il réunit l'Aquitaine, la Gascogne, la Septimanie en un seul royaume avec un roi particulier. Alors qui est-ce qu'il va mettre ? Ben son autre fils, Louis, celui qui sera Louis le Pieux après, hein. Il a été sacré et couronné à Rome, en même temps que son autre frère Pépin, par le pape Adrien le 15 avril 781. Et vous pensez bien que Charlemagne ne le laisse pas gouverner seul, bien sûr. Il le conseille beaucoup et surtout, il lui donne des ordres. Il semble que les musulmans d'Espagne ne craignent pas ce royaume, car Hécham, à la tête de l'émirat de Cordoue, déclare une guerre sainte à la Gaule. Ah, ça commence mal pour Charlemagne, hein. Heureusement, il a dans ses grands barons qui dirigent l'armée, il a Guillaume de Toulouse, un excellent chef de guerre. Donc finalement, les choses s'arrangent parce que nous gagnons encore. Mais en fait, Charles a des problèmes avec tous les pays qui sont aux frontières. À chaque fois, il est vainqueur. À la suite de ces guerres, Charlemagne a considérablement, évidemment, agrandi son royaume, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y en a plus à conquérir autour. Il l'orne du côté de la Grande-Bretagne. Bon, alors il sait bien quand même qu'il ne peut pas y débarquer, hein, il n'a pas de flotte suffisante pour ça, hein, mais il espère y avoir une influence. Alors, il écrit souvent au roi. À ce moment-là, la Grande-Bretagne, elle est divisée en 7 morceaux, et pour chaque morceau, il y a un roi. Alors, l'un des territoires s'appelle la Mercie. Alors, il échange des ambassades, des présents. Il ne veut pas établir, évidemment, sa domination sur ses rois, mais il veut créer quelque chose qu'on va faire plus tard. Il veut créer une entente cordiale. Je vous ai dit que le territoire de Charlemagne s'est considérablement agrandi vers l'est. Alors, il n'est pas possible que ce dernier continue à vivre sur les bords de l'Oise ou alors à Saint-Denis, ça fait quand même trop loin. Si bien qu'il se fait construire 3 grands palais, à Nimègue, c'est-à-dire qui correspond aux Pays-Bas maintenant, hein, Ingelsheim et surtout Aix-la-Chapelle. Et à partir des fêtes de Noël 794, il s'établit définitivement à Aix-la-Chapelle. C'est beaucoup plus central pour pouvoir gouverner. Ça se situe bien sûr actuellement en Allemagne. Il y fait construire un palais immense, une chapelle. Alors, vous vous souvenez que Charlemagne il s'est mis à l'étude vers ses 40 ans, hein, puisqu'on peut dire que sa scolarité avait été tout à fait négligée. Et que c'était une grande réussite, hein, parce qu'arrivé à cet âge-là, il s'est plongé tellement dans l'étude qu'il parle le latin couramment, il comprend le grec et il aime de plus en plus se faire lire les écrits des anciens. Il aime beaucoup les débats théologiques, il écoute des vers. Alors avec qui est-ce qu'il fait ça ? Avec un savant qu'il avait fait venir d'Angleterre, je vous l'ai dit la dernière fois, Alcuin. Et justement cet Alcuin, cet anglais, il aime beaucoup discuter. Alors il veut donner l'exemple, il se dit « si ». Chez moi, on aime beaucoup l'étude, eh bien je vais répandre ça. Alors, il crée ce qu'on appelle un cénacle, à la fois école et académie, mais là où il habite bien sûr. Les élèves sont les enfants des hauts fonctionnaires. Parfois, il vient même s'asseoir au milieu d'eux. Alors cette gloire, ça fait des jaloux, il y a des complots, mais des complots sérieux, hein. Et l'un vise même Charlemagne, ses fils, sauf Pépin le Bossu. Alors que je vous rappelle Pépin le Bossu, Charlemagne s'est marié 5 fois. La première fois, c'était une Franque avec laquelle, qu'il a répudié après, avec laquelle il a eu cet enfant. Très beau de visage, mais bossu. Et là, apparemment, il a fait un complot contre son père et ses fils pour pouvoir s'approprier le royaume. Évidemment, c'est raté. les conjurés, sont soit pendus, soit décapités. On n'y allait pas par quatre chemins. Pépin, lui, il a fait semblant d'être malade et il obtient la vie sauve, mais Charlemagne dit qu'il doit finir ses jours dans un monastère. Ce sera le monastère de Prume où il meurt en 811. Ces deux complots, alors, sont une réaction contre quoi ? Ben parce que quand même, on peut dire que Charlemagne règne en despote. À la suite donc de ces révoltes, le roi demande à tous ses envoyés dans le royaume d'être vigilants et de rendre la justice. Chaque comté a son tribunal. Et lui, il fixe avec rigueur les conditions de son fonctionnement. Pour faire régner l'ordre et la justice dans ses états, Charlemagne a recours aussi à la religion. Ça, c'est vrai que sa piété est réelle et il n'en changera jamais. L'évêque, dit-il, doit veiller à l'observance des prescriptions. Vous vous rappelez qu'au Moyen-Âge, il y a eu plein de fléaux. Ils n'ont pas disparu. On signale par exemple des tremblements de terre, de la sécheresse, des inondations et surtout des famines. Charlemagne recommande alors les prières, les messes, le jeûne. Mais quand même, comme il n'est pas idiot, il sait bien que s'il veut que Dieu l'aide, ben il faut qu'il s'aide lui-même. Alors les évêques, abbés, comtes doivent nourrir les familles pauvres jusqu'à la moisson nouvelle. En 793, Charlemagne fixe un prix limite pour la vente du pain et des grains. Il essaie d'avoir une action économique sur le modèle de ses possessions à lui. À leur tête, à la tête de chaque possession, il y a un intendant, à la fois administrateur, receveur, policier, juge. Il lui appartient d'entretenir les bâtiments, de diriger les travaux agricoles, de se procurer de bonnes semences, de planter des vignes, de clore les prés, c'est du travail, hein, de contrôler la fabrication et la conservation du vin, de tenir en bon état les étables, les moulins, les viviers. Donc, il se dit que si on prend modèle sur ce qui se passe chez moi, on va développer une économie qui va pouvoir être utile pour les gens de la ruralité, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y a pas d'industrie encore. Hein. Alors, il publie un manuel. C'est pas un manuel d'économie rurale, mais il se dit que, même si on ne le lit pas, les gens ne savaient pas trop lire à l'époque, hein, on sait que ça provient de Charlemagne, on sait que chez lui, c'est bien administré, donc on essaiera d'en faire autant. Il intervient aussi en concernant les poids et mesures, parce que vu le territoire qu'il avait, hein, qui s'étendait depuis la Bretagne jusqu'en Allemagne actuelle, plus en Italie, plus ce qui est actuellement la Belgique, il y avait des poids et des mesures complètement différents. Donc, il réglemente les poids et les mesures. Il crée une monnaie nouvelle. Alors, cette monnaie nouvelle, c'est pareil, les monnaies étaient extrêmement différentes. Monnaie unique, en métal pur, avec un poids exact. Alors, on possède des sous d'or au nom de Charlemagne qui ont été frappés à Uzès. L'État franc tout entier donc a une nouvelle monnaie uniforme, comme nous avons l'euro. Nous arrivons à quelque chose que tous les élèves français ont appris. Un nom, au moins qu'il leur reste, les Missi Dominici. Alors, qui étaient ces gens-là ? Ben, on peut dire que ce sont finalement des inspecteurs. Ils représentent le roi et ils sont chargés de vérifier que les évêques, les comtes, appliquent bien les ordres du roi. Et ils vont toujours par deux. Il a aussi la main mise sur l'Église Charlemagne. Il choisit lui-même les évêques et les abbés. Il préside les conciles. Et pendant tout son règne, il intervient sans arrêt dans les affaires de l'Église. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Thank you. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Charlemagne. Et je venais de vous dire que Charlemagne intervient sans arrêt dans les affaires de l'Église. Par exemple, les moines ne peuvent sortir de leur couvent que pour une mission déterminée avec l'autorisation spéciale du roi. Dans l'Église franque, la liturgie varie avec chaque diocèse, si bien que Charlemagne décide de l'unifier. De plus, il introduit quelque chose d'important, le chant romain. C'est à partir de Charlemagne que l'on chante dans les églises. Avant, on ne chantait pas. Alors, il crée des écoles de chant où on apprend à psalmodier comme à Rome. Les réformes que Charles a faites dans l'église n'ont pas rencontré d'opposition. Ben oui, parce qu'il disait, ça n'est pas payé trop cher, n'est-ce pas, l'agrément de vivre tranquille sous la protection du roi et de ses fils. Le prince leur assure bien-être, sécurité matérielle, puissance. Donc tout ça, et puis en plus, il a inventé un impôt qu'on appelle la dîme, c'est-à-dire le dixième des récoltes qui va forcément au clergé. Donc quand Charlemagne a besoin, par exemple, d'argent pour faire la guerre et qu'il en demande au clergé, eh bien ça marche tout à fait. Le clergé ne rechigne pas du tout. Alors, comment se présente l'État franc à la fin du 8e siècle? C'est avant tout un État campagnard. Il y a beaucoup de forêts encore, beaucoup de ce qu'on appelle des villas, c'est-à-dire ce sont des fermes finalement, hein, les villas. Ce sont des fermes, c'est absolument considérable. Beaucoup de monastères, et les monastères eux-mêmes sont de véritables fermes. Alors, il y a toujours des villes qui remontent à l'époque romaine. Elles sont toujours faites avec une enceinte polygonale, avec des tours, des portes. Mais quand je parle des villes, il n'y a jamais des villes énormes. Peu de villes atteignent les 10 000 habitants. On appelle ça une grosse ville à l'époque, 10 000 habitants. Hein. Parmi elles, et oui, dans ces villes, évidemment, il y a toutes sortes de gens, mais surtout des marchands. Et les marchands, à l'époque, se regroupent en guildes. C'est un petit peu, j'allais dire, les syndicats de maintenant. Hein, se regroupent en guildes. Parmi ces villes, il y a Paris, mais il ne faut pas croire que Paris avait une importance énorme à l'époque. C'était une toute petite ville qui se limitait à l'île de la Cité. Hein. Bien sûr, il y a dans le voisinage des abbayes puissantes, deux, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Denis. Mais au point de vue politique, on peut dire que sous Charlemagne, Paris n'a joué absolument aucun rôle. Tout autour de Paris, il y a des grandes forêts, hein, on les connaît, Rambouillet, Fontainebleau, Sénart. Au nord, là, au-delà de la Somme, beaucoup d'abbayes qui sont des grands centres économiques. Au point de vue intellectuel, eh bien, une ville sort du lot, c'est Orléans. Orléans, c'est un grand centre intellectuel avec beaucoup d'écoles. Les fleuves sont importants à l'époque parce que ce sont eux qui permettent le déplacement. Par exemple, où ils sont célèbres pour certaines choses. Par exemple, la Loire est célèbre parce qu'on y pêche le saumon. On circule, donc on passe facilement, par exemple, de la France du Nord en Aquitaine par la Vienne et l'Allier. On entre en Bourgogne, par exemple, par la Seine ou par Lyon. Donc, toute cette partie gauche du territoire a une grande valeur au point de vue production et échange. La partie centrale, c'est là que se trouve le gouvernement, puisqu'il y a là Aix-la-Chapelle, mais on ne peut pas dire que ce soit une partie économique bien intéressante. Les villes s'établissent le long des rivières. Bien évidemment, il y a un axe important dans cette région-là, c'est le Rhin. Au point de vue religieux, il y a une région très, 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 très religieuse. On peut dire que c'est même la citadelle de la foi, c'est la Bavière, avec les villes de Ratisbonne, de Passau et même jusqu'à Salzbourg. Le Danube, c'est la grande artère navigable. Et puis, alors évidemment, il y a une partie qui ne ressemble pas du tout au restant, c'est l'Italie. L'Italie avec beaucoup de villes pleines de monuments antiques. Finalement, on peut dire du royaume franc qu'il est très varié, qu'il est prospère et qu'il fait même l'admiration des étrangers. Alors revenons un petit peu à Charlemagne. Il est à Rome à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il est à Rome? Le pape, c'est Léon III. Et Léon III a été accusé d'avoir des mœurs qui ne correspondent pas à sa dignité. Alors Charles, qui fourre son nez partout dans les affaires de l'Église, descend. C'est incroyable quand je dis descend, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent circuler à l'époque? Inimaginable. Alors il descend à Rome pour essayer de régler cette affaire-là. Donc, on réunit une assemblée pour entendre le pape. Et ce dernier dit « ce n'est pas vrai », il prête serment sur les évangiles, disant qu'il n'est absolument pas coupable. Bon, alors, il n'est condamné à rien du tout, on le croit sur parole. Et l'assemblée qui est là d'un seul coup, et ça Charlemagne n'était pas au courant, hein, déclare que Charlemagne, par son territoire, par sa façon excellente de le gouverner, et par le fait qu'il intervient toujours en faveur du pape, il mérite le titre d'empereur. Eh bien alors, le voilà couronné le jour de Noël 800. Il témoigne de sa joie en faisant des cadeaux somptueux aux grandes églises de Rome. Et maintenant, il pense quand même à sa succession. Alors, je vous ai déjà dit qu'à l'époque, un roi ne donnait pas son royaume à l'aîné. Le royaume était partagé en autant de royaumes qu'il avait de fils. Donc, le 6 février 806, à Thionville, Charlemagne réunit une assemblée et déclare qu'il partage son état en trois lots. Trois fils, hein, Pépin, Carloman, Charles, on disait Charles, Charles ou Carloman, c'est pareil, et Louis. Donc chacun de ces lots constitue un royaume, donc chacun sera vraiment le maître dans son royaume. Oui, mais Charlemagne, il vieillit. En 810, il fait une chute de cheval. Il montait encore à cheval à 68 ans, ce qui, à l'époque, était très, très vieux. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'il a des fréquents accès de fièvre. Nous allons faire une dernière pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Charlemagne et j'en suis à vous dire qu'il vieillit, qu'il a fait une chute de cheval alors qu'il montait encore à cheval à 68 ans. Et à partir de là, on peut dire qu'il a de fréquents accès de fièvre. Ouais, mais il refuse d'écouter les médecins parce que les médecins voulaient régler sa nourriture et ça, il ne voulait pas en entendre parler. Il ne peut plus se lever la nuit pour les offices. Il boite et plusieurs malheurs l'accabent en même temps. En 810, meurent sa sœur Gisèle, sa fille Rotrude, son fils Pépin. Et le 4 décembre, et c'est ça qui lui a causé un chagrin énorme, le 4 décembre 811, c'est son fils aîné Charles qui meurt. Autrement dit, si vous avez bien compté dans votre tête, le royaume avait été divisé en trois, et bien maintenant il n'y en a plus qu'un qui va recevoir donc tout le royaume, ce sera Louis le Pieux. Le 1er novembre 813, au retour de la chasse, on peut dire que la maladie le terrasse. Le 22 janvier 814, il est pris d'une fièvre violente. Le 27, il fait appeler son chapelain pour recevoir les derniers sacrements. Et le 28, j'ai trouvé ça extraordinaire, le 28, il esquisse de son mieux un signe de croix, il ferme les yeux, il prononce cette parole, « Seigneur, je mets mon âme entre tes mains », et il expire. Il a presque 72 ans, il a régné un peu plus de 45 ans. Au revoir à tous. 72.